Cette section sur l'histoire de la Kabbale se veut essentiellement un avertissement adressé à tous les chercheurs, à tous ceux qui sont amenés à parler publiquement de l'histoire de la Kabbale, pour les mettre en garde, contre une habitude qui a été prise depuis fort longtemps et qui, hélas, ne cesse de s'imposer un peu partout, et qui est de considérer la Kabbale laurianique sous l'angle exclusivement cholémien, plus précisément sous l'angle de l'analyse hypothétique que Scholem a fait de l'histoire du chabbatianisme et du chassidisme qui précède et qui succède respectivement la Kabbale laurianique dans l'esprit de Gershom Scholem. En effet, Scholem nous dit en substance ceci. Après l'expulsion des Juifs d'Espagne, la Kabbale, comme il l'appelle parfois la nouvelle Kabbale, s'est retrouvée, s'est rassemblée dans la ville de Safed. Elle était dirigée par Rabbi Yitzhak Luria, un kabbaliste important. La Kabbale laurianique, transmise par le biais de ses enseignements que ses élèves ont couché par écrit, et en particulier son élève principal, Rabbi Chaim Vital, s'est diffusée très vite à travers tout le bassin méditerranéen, en Europe en tout cas, et en Europe, elle a donné naissance à ce qui allait devenir l'effervescence, le substrat social, culturel, intellectuel, l'impulsion, l'élan messianique qui constituait le sillon du messianisme ou du faux messianisme, mais Scholem emploie le terme simplement de messianisme, du nom de son maître, de sa principale figure, Sabbatai Tzvi. C'est au XVIIe siècle que Sabbatai Tzvi lance le mouvement messianique qui portera son nom, le sabbatianisme. Sabbatianisme qui est, selon Scholem, l'œuvre de l'influence de la Kabbale laurianique qui explose messianiquement à travers ce mouvement qui a capturé l'attention et mis en émoi les foules juives de l'ensemble du bassin méditerranéen. Après l'échec du sabbatianisme, après la conversion de Sabbatai Tzvi à l'islam sous la menace de la peine de mort, le sabbatianisme est rentré dans une période de demi-sommeil. Cependant, il s'est réveillé sous une nouvelle forme en Europe de l'Est, en Pologne, dans certaines villes d'Ukraine, de Russie, de Biélorussie, sous la forme de ce qui allait devenir le chassidisme. Le chassidisme étant un mouvement qui purifie le chabbatianisme de ses dimensions trop explicitement, ouvertement antinomiques, et qui introduit dans le peuple et dans les masses populaires des Juifs d'Europe de l'Est l'élan religieux, la fureur et la passion pour le chef messianique, le chef charismatique qui était déjà en œuvre dans le sabbatianisme. Donc on a trois moments qui se succèdent et qui supposent l'un l'autre celui qui le précède, le sabbatianisme, précédé par le laurianisme et suivi par le chassidisme. Et dans chacun de ces mouvements, on retrouve le mouvement suivant ou le mouvement antérieur sous une forme soit embryonnaire, soit développée ou purifiée. Cette vision de l'histoire, comme l'a montré Moshe Edel ainsi que d'autres historiens du messianisme et de la mystique juive, n'a aucune base historique et dépourvue de tout fondement objectif. Elle est une hypothèse et elle reste une hypothèse. On la présente comme une vérité établie qui ne fait pas de doute. Je viens d'entendre du reste une émission sur une chaîne juive de télévision câblée TFJ où un universitaire français du nom de Maurice Ruben Ayoun qui vient d'écrire un ouvrage sur le Zohar a parlé et a raconté l'histoire du messianisme, du laurianisme sous la forme que ce messianisme a pris dans le sabbatianisme et dans le chassidisme, qui a rapporté, d'ailleurs sans le nommer, l'hypothèse de Gershom Scholem, qui n'a pas évoqué une seule fois les critiques extrêmement sérieuses, rigoureuses et imparables qui ont été adressées à cette hypothèse, et qui a fait, lui et d'ailleurs avec la complicité de son interlocuteur, de cette hypothèse, une vérité historique incontestée, incontestable, une évidence. Or, je voudrais dire et souligner que cette vision de l'histoire, qui est très grave, parce que En cette période si importante qui succède à l'expulsion des Juifs d'Espagne, où la Kabbale se développe, se déploie, où de nouvelles écoles sont fondées, des systèmes plus amples, plus sophistiqués, plus complexes sont développés par des kabbalistes, par Rabbi Moïse Cordovero, par Rabbi Yitzhak Luria, par d'autres maîtres qui vivaient en Égypte, qui vivaient en Turquie ou dans d'autres zones de l'Empire byzantin, où la Kabbale connaît un renouveau qu'il serait utile et nécessaire même d'interpréter correctement, eh bien cette période est fantasmée, mythifiée à travers l'érection d'une hypothèse très contestable qui soudain devient une espèce de mythe national. Ce que Scholem d'ailleurs a toujours caressé, c'est le rêve de Gershom Scholem, comme on l'a vu dans un exposé précédent, d'envisager l'histoire du judaïsme comme une épopée mythique nationale. Eh bien, cette épopée mythique nationale, ce mythe national, ne repose sur rien. Le sabbatianisme n'est pas tributaire du lourianisme, ou l'est de façon seulement très marginale. Sabbatai Tzevi était un lecteur du Sefer HaPelia et du Sefer HaKana, et pas de la Kabbale lourianique, qui était quasiment inconnue, très peu lu, qui n'avait pas accédé aux éditions qu'il allait connaître par la suite, aux éditions imprimées, qui avaient été très peu diffusées dans les pays où le sabbatianisme s'est lui-même diffusé. Et donc, faire du sabbatianisme, du laurianisme, le sillon qui a permis l'implantation du sabbatianisme, faire du laurianisme ce sillon, eh bien, c'est une aberration sans fondement. De même, considérer que le chassidisme s'est élaboré à partir du lourianisme et du sabbatianisme est une pure aberration. Il y a seulement une allusion dans un texte apocryphe, contestable en tant que source historique fiable, du Baal Shem Tov, le fondateur du chassidisme, un seul texte où il semble être question de Sabbatai Tzevi. De ce texte, de cette allusion douteuse qui mérite analyse, comme il a été montré, eh bien, Gershom Scholem en a fait la preuve du marquage puissant du chassidisme par le sabbatianisme. Or, c'est là encore une aberration. De même, le chassidisme est infiniment plus tributaire de la Kabbale de Rabbi Moïse Cordovero et de celle de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto que de celle de Rabbi Yitzhak Luria. On peut même dire que le chassidisme, à de nombreux égards, est une réaction contre la sophistication, la complexité de la Kabbale théosophique en général, du Zohar en particulier, et de son commentateur, Rabbi Yitzhak Luria. Mais tout cela, qui sont des évidences, tout cela est passé sous silence, tout cela est sacrifié au bénéfice d'un mythe facile à raconter, qui peut être exaltant aux yeux de certains, mais qui n'a strictement aucune réalité historique. Je voulais simplement mettre en garde contre cette version des choses qui brouille l'accès au texte, qui brouille la narration de l'histoire de la Kabbale et qui imagine une succession logique et déductible d'une certaine façon, le lourianisme étant la cause dont le sabbatianisme est l'effet, effet qui pourrait se déduire logiquement de la cause, pareil pour le chassidisme par la suite, alors qu'en fait nous avons affaire à des réalités historiques beaucoup plus complexes, ancrées dans la société, ancrées dans la réalité sociale, et des communautés juives au temps de Sabbatai Tzvi, et des communautés juives au temps du chassidisme, et des communautés ou des micro-communautés juives qui entouraient la Kabbale laurianique à Safed et dans les bourgades avoisinantes. Kabbale laurianique qui, je le dis en passant, n'est jamais devenue la Kabbale populaire, l'héritage de tous, comme une idéologie cholémiologique, si on peut dire, ou cholémiomanique, voudrait le laisser croire. La Kabbale laurianique est une Kabbale sophistiquée, extrêmement difficile, absolument incompréhensible et illisible par le commun des mortels, et faire croire qu'elle est devenue soudainement, de façon explosive, une forme de pensée, une forme de croire, une doctrine, une croyance absolument partagée par presque tous, c'est c'est absolument ridicule. Je voudrais ajouter encore quelque chose à ce sujet. Ce n'est pas grave que l'histoire soit moins romantique, soit moins exaltante que ce qu'elle est dans les écrits de Gershom Scholem, dans sa pesanteur, dans sa difficulté, dans l'épaisseur de réalité qui est la sienne. L'histoire de la mystique juive, l'histoire de la religion juive reste fondamentalement à faire. On n'en a écrit que des, je ne dirais même pas des chapitres, je dirais à peine des paragraphes. Les liens entre les mouvements religieux, les mouvements de pensée, entre les écoles, entre les maîtres et la transmission de leurs écrits, celle aussi de leurs enseignements à travers leurs disciples et des disciples de leurs disciples. Tout cela est essentiellement une terre inconnue qui reste à défricher. Et ce n'est pas en s'abritant derrière les montages extrêmement spéculatifs de Gershom Scholem qu'on peut espérer faire face aux défis de la construction, de l'élaboration d'une histoire juive ou d'une histoire de la mystique juive cohérente, rigoureuse et convaincante. Enfin, pour conclure ce petit excursus, je dirais que, avant de se lancer dans des grandes visions de l'histoire juive, de l'histoire de la mystique juive, de l'histoire de la Kabbale, il faut regarder de près ce que les textes nous apprennent et décortiquer phrase après phrase, ligne après ligne, verset après verset. On ne peut comprendre un mouvement à la fois social, doctrinal, idéologique et religieux, dans tous les sens du terme, avec son culte, ses croyances. On ne peut comprendre ces phénomènes que si l'on se donne la peine de les examiner à fond. Ce qui implique que la prétention à embrasser d'un seul geste l'ensemble de cette histoire, comme un aigle qui, de son œil perçant, verrait les montagnes, les vallées, les océans en même temps, cette prétention est illusoire. On ne peut être le héros en tant que spécialiste que d'une période, que d'un livre ou que d'un corpus. Autrement, on fait du tourisme académique, intellectuel, mais seulement du tourisme. Je n'ai rien contre le tourisme, et à ma foi, ça peut être intéressant, distrayant, mais il ne faut pas prendre les diaporamas touristiques pour de la géologie, de la géographie ou de la science historique.